Je vais céder la parole à Nicolas Renaï, qui est directeur de recherche en sociologie au département de sciences sociales à l'INRA, à Dijon. Et il est chercheur au Césaire. Et donc lui, il va faire son intervention à partir d'enquêtes qui ont porté sur les ouvriers de l'industrie et du bâtiment, sur les élus locaux ou encore la gendarmerie, à travers lesquelles il étudie la structuration des groupes sociaux et l'encadrement des classes populaires dans les mondes ruraux en France. Sa communication, elle, va porter sur les rapports sociaux de sexe et la manière dont ils vont contribuer à redéfinir les frontières. Nicolas, c'est à toi.
Merci. Merci aux organisateurs de m'avoir invité, ce qui m'a donné l'occasion de revenir sur des matériaux anciens, puisque je vais partir d'un ouvrage qui a été publié en 2005, pour la première fois, donc « Les gars du coin », pour quand même pas redire les mêmes choses, mais donner une forme de suite à l'histoire. En traitant aussi les questions de réputation et d'insultes. Donc l'ouvrage en fait était fait à partir d'une monographie d'un village industriel, était focalisé autour de la question de l'appartenance locale, c'est-à-dire l'histoire, les sociabilités familiales, enfin l'héritage et les sociabilités familiales, juvéniles, de travail associative, comment elles vont pouvoir être mobilisées face à la précarisation qui découle de la désindustrialisation. Donc il y a la crise industrielle, mais il y a aussi d'autres phénomènes beaucoup plus larges, comme la massification scolaire, qui font que dans le village que j'ai enquêté, donc c'est un village de 600 habitants en Bourgogne, ce sont les moins diplômés qui vont rester au village et qui vont essayer de s'insérer dans l'espace professionnel, mais aussi matrimonialement, etc. Je vais y revenir. Alors l'ouvrage questionne différents sous-champs de la discipline, même s'il s'agit globalement de renseigner la condition ouvrière, la condition populaire contemporaine, ça touche quand même aux questions de sociologie de la jeunesse, de l'éducation et de la famille, de la socialisation et de genre aussi, et puis du travail des loisirs, puisque l'idée c'est d'avoir une entrée ethnographique et donc d'observer par observation participante les jeunes ouvriers en usine. Dans un club de football, à la chorale aussi, mais je ne l'ai pas très peu utilisé, ou en famille. Néanmoins, les deux grands principaux sous-champs disciplinaires dans lesquels je me suis inscrit, c'était d'une part la sociologie rurale, qui à l'époque où je faisais ma thèse, c'est-à-dire dans les années 90, était encore focalisée sur les mondes agricoles, et de l'autre part, la sociologie du monde ouvrier, qui, elle, était focalisée sur les jeunes urbains sans forcément prendre la contextualisation, prendre toute la mesure des conséquences de la contextualisation des activités professionnelles. Alors le contexte rural de faible densité de l'habitat me permet de mettre le poids sur l'accent de l'interconnaissance, le poids de l'interconnaissance, pardon, dans les rapports sociaux quotidiens, et aussi aller à l'encontre de certaines visions du sens commun autour du monde rural, puisque aujourd'hui encore, comme dans les années 90, à 25 ans, 40% des jeunes hommes et femmes sont ouvriers, parmi ceux qui sont actifs. Alors, du point de vue de la méthode, donc je ne vais pas m'étendre là, juste j'ai dit que c'était une ethnographie d'un village industriel. Je mentionnerai juste deux choses, la dimension réflexive, qui est forcément nécessaire quand on a une implication longue comme ça sur un terrain. Et puis, par rapport au cas que je vais développer tout de suite, bien évidemment, et puis le rôle du temps et de la longue durée. Et donc, j'enchaîne sur le deuxième point, j'ai retracé un peu le contexte, et en fait, là, c'est une forme de suite que je vais vous restituer à travers la trajectoire professionnelle et matrimoniale, et surtout matrimoniale en l'espèce, de Sylvain, donc un des personnages des Gars du Coin, que j'ai continué à fréquenter. Dans Les Gars du Coin, il y a quasiment tout un chapitre qui est autour de sa situation, puisqu'à ce moment-là, il est en couple avec Suzanne. Et ils sont, je les présente comme une forme d'idéal type d'un couple ouvrier à l'ancienne, c'est-à-dire que Suzanne était mère célibataire à 15 ans. Quand ils ont 20 et 23 ans, ils élèvent ensemble trois enfants. Il y en a un quatrième qui arrivera 5 ans plus tard. Suzanne a arrêté les études quand elle est enceinte, pour sa première grossesse. Et ensemble, ils vont essayer, en se mariant jeune, en accédant à la propriété jeune, etc., d'avoir un accès à une honorabilité sur à la manière de, la mani- de dont, dont le, la génération de leurs parents avait pu le faire. Et donc, en fait, c'est plutôt parmi l'ensemble des enquêtés, dans le groupe des enquêtés, c'est plutôt un cas rare, c'est-à-dire que la plupart des enquêtés vont repousser l'âge de la procréation et de la stabilisation conjugale. Alors, au niveau de leurs origines, donc Suzanne est portugaise, elle est fille d'un ouvrier maçon. Sa mère est femme de ménage, ou quand elle travaille, parce qu'elle ne travaille pas beaucoup. Elle a deux sœurs et un frère. Il y a seulement le frère qui connaîtra une petite mobilité professionnelle, puisqu'il deviendra employé de la fonction publique. Une mobilité intergénérationnelle. Et du côté de Sylvain, donc c'est une famille nombreuse. Son père était ouvrier à l'usine du village. Il y est mort du fait d'une crise cardiaque quand Sylvain avait 8 ans. Donc Sylvain a très peu connu son père. Par contre, il a beaucoup, beaucoup connu sa mère, puisqu'en tant que cadet, benjamin d'une fratrie de 9 enfants, pardon, son père est mort quand il avait 8 ans, donc en fait il a beaucoup assisté sa mère étant enfant. Sa mère qui n'a jamais travaillé de manière salariée et qui a toujours été travaillée à la maison. Alors quand le couple se forme donc de manière très précoce, très rapidement, le rôle féminin que va remplir Suzanne va être celui qui a été bien identifié par Isabelle, de régulation de la propension masculine à faire la fête. Et là, en l'espèce, c'est quand même très... C'est particulièrement dur à tenir comme rôle, étant donné l'appétit de Sylvain, l'appétit à de tous horizons, c'est-à-dire appétit en matière de fête, de copains. C'est un chef de bande adolescent, il continue à avoir ce rôle pendant toute sa vingtaine d'années. Appétit aussi en matière de travail, puisqu'il passe tous les soirs, la plupart des week-ends à travailler au noir. Il est toujours en quête de reconnaissance professionnelle par un patron, ou quand il essaie de se mettre indépendant, il est plâtrier peintre. Il a un CAP. Voilà. Et en fait, à partir de ce cas, l'ouvrage observe la déstabilisation du marché matrimonial qui découle, d'après moi, de la déstabilisation du marché du travail. Enfin, du moins, elles sont intrinsèquement liées. Du côté des femmes et donc du côté de Suzanne, en fait, il y a une rareté des emplois non qualifiés dans le monde rural qui est assez connue. Ici, Suzanne va travailler en intérim dans une usine qui, depuis, a fermé ses portes, qui n'embauchait que des femmes dans l'atelier. Et donc, du coup, un repli assez fréquent, très précoce pour Suzanne, mais qu'on le retrouve plus tard chez la plupart des autres enquêtés, sur la position de mère de famille, comme condition d'accès à une position sociale honorable. Chez les jeunes hommes, globalement, il y a une forme de rapport désenchanté au travail et le groupe de pères comme un remède au désarroi. Et donc l'allongement des relations de bande adolescentes ou héritées de l'enfance jusqu'à au moins une trentaine d'années. Et puis une forme d'exacerbation de forme de virilité avec la mise en scène de sa bravoure et de son endurance au foot, au travail, dans les soirées, à la chasse, dans les affouages quand on fait le bois, etc. Et cette déstabilisation d'estime de soi dont je vais parler à présent à partir de l'exemple de Sylvain. Puisque depuis 2005, et donc depuis la publication de l'ouvrage, donc là j'ai résumé à grands traits l'analyse que je faisais de ce couple à ce moment-là, et ce qui me permettait de dire sur la jeunesse rurale ouvrière. Donc depuis 2005, le couple s'est séparé suite à un sevrage alcoolique de Sylvain. Et ça a été en fait c'est une forte, très très forte remise en cause de la masculinité de Sylvain, avec une volonté de réalisation de soi par rapport à un ensemble d'aliénation qu'il connaissait, donc aliénation à l'alcool bien sûr, aliénation au travail, j'ai évoqué cette situation. Aliénation aussi dans la forme d'héritage qu'il prolongeait en tant que rôle de père, dans son rôle de père ou de mari. Et donc c'est les normes de genre aussi qu'il va vouloir bousculer. Puisqu'effectivement, ce ménage avait toutes les apparences du couple ouvrier traditionnel. Non, il ne fallait surtout pas que j'utilise ce mot que je trouve enfin, c'est anhistorique et voilà. Voilà, avec une masculinité hégémonique du côté de la relation de couple et une très très forte division du travail dans le couple. On a d'un côté une identification très précoce à la maternité pour Suzanne et une forte fécondité. Un temps de vie du couple sans enfant qui est très faible, en l'occurrence là, il est inexistant. Ça c'est un ensemble de caractéristiques que l'on connaît sur le monde, les classes populaires contemporaines. Hein. Donc l'homme était ouvrier déjà en CDI au moment de la rencontre. L'épouse, elle, alterne entre activité et inactivité. Enfin, quand c'est de l'activité, c'est du contrat à durée déterminée. Dans l'industrie ou l'emploi de service, puisque c'est ce qu'elle fera après. La vie sociale du ménage est très marquée par la sociabilité masculine et très festive de Sylvain, mais aussi par les parentèles de chacun, puisque jusqu'en 2005, le couple habite dans le village dans lequel ils ont grandi. Alors, à un moment donné, ils vont essayer, de bien conscients de leurs problèmes conjugaux, de racheter une ferme, de leur vieux rêve et retaper, etc. Et en fait, tout va se reproduire. C'est-à-dire qu'à posteriori, Sylvain me dira en entretien, en fait... on reproduisait exactement ce qui se passait avant, c'est-à-dire que moi j'étais là, c'est-à-dire il montre l'annexe de la maison, la grange qu'il n'arrêtait pas de retaper, et Suzanne elle était là, c'est-à-dire dans la cuisine, là où on fait l'entretien, avec les enfants, tout à côté du foyer. Et en fait, à travers ce témoignage de Sylvain, il me semble que cette très forte division, cette répartition des rôles sexués dans le couple... ne va pas plus toujours de soi, y compris dans les milieux populaires, du moins dans le cas où il y a un décalage des aspirations de chacun qui va s'affirmer progressivement, puisque Suzanne va de plus en plus revendiquer sa volonté de travailler et elle va devenir aide à domicile, puis secrétaire médicale, etc., par interconnaissance de proche en proche. Sylvain va lui remettre en cause globalement le modèle masculiniste dont il a hérité et qu'il a reproduit pendant longtemps. Alors, juste pour vous donner un exemple qui montre, à mon avis, que la question de la masculinité hégémonique, il faut la penser de manière relationnelle, c'est-à-dire que c'est à la fois un pouvoir masculin, d'être à l'extérieur, d'être celui qui représente la maisonnée, etc. Et en même temps, c'est aussi un pouvoir féminin, celui de contrôler, dans une certaine mesure, ce qui se passe dans l'espace domestique. Alors, Sylvain me dit en entretien en 2011, moi, quand j'ai arrêté de boire, j'avais dit, allez, les bonnes décisions, je participe. Chacun fait ses petites tâches, je participe. Tu sais, le mec qui arrive avec ses gros sabots, qui n'a rien fait pendant 20 ans, je lui avais dit, le matin, ça va t'aider. En plus, elle voulait partir, donc j'essayais de trouver un sens à mon arrêt de l'alcool en l'épaulant. Le matin, tu te lèves plus, je fais ma gamelle. Oh là là, la gamelle, tu n'y touches même pas, hors de question, qu'elle me répond. La vie l'avait rendue comme ça, mais de mon côté, je n'ai pas été dans mon rôle de père ni de mari. Donc en fait, ce que je veux dire à partir de cet extra entretien, c'est que c'est complètement intrinsèque, c'est-à-dire que le fait pour Suzanne de faire la gamelle de son mari, c'était aussi une forme de reconnaissance de son pouvoir dans l'espace domestique. Voilà. Alors, la suite de l'histoire, c'est que c'est en fait le couple, enfin, les versions diffèrent un peu, mais bon, c'est globalement, on peut dire quand même que c'est Sylvain qui va rompre définitivement en ayant conscience qu'il n'arrivera pas à aller vers les aspirations qu'il a de réalisation de soi en restant avec Suzanne. C'est-à-dire qu'il veut sortir ses dépendances, virilistes au sens large, donc la fête, l'alcool, le travail intensif, ou au noir, le foot, le rapport aux femmes et aux enfants. Et la révolution qu'il opère dans son mode de vie est réellement impressionnante, puisque au moment où ils se séparent, il y a une fille qui est au collège, il y a une fille qui est au collège, une fille qui est au lycée, une fille qui est en primaire, et ils vont opérer entre eux, sans passage devant un juge, des affaires familiales, une garde des enfants une semaine sur deux. Et il va réellement s'en occuper, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui était complètement à l'extérieur de l'espace domestique, il va s'occuper du linge, de la cuisine, etc., avec plaisir, et ça va énormément le pacifier. Il se met à lire sous l'influence de sa fille qui est au lycée. Il se rend compte que, donc je le cite, qu'en fait tu peux voyager gratos en lisant. Il ne sort plus, les fêtes ça ne m'attire plus. Et en même temps, tout ça, pour, en même temps, il reste un ouvrier. C'est-à-dire qu'il ne devient pas un petit bourgeois qui va se mettre à lire, à s'occuper de l'éducation de ses enfants, etc. C'est-à-dire que même dans la manière de raconter son sevrage alcoolique, il va mettre en scène son corps. C'est-à-dire qu'il tape du poing sur la table, il dit à quel point c'est dur, que c'est tous les matins, il y pense à l'alcool, etc. Dans son rapport aux enfants. Alors là, je peux y revenir un peu. C'est-à-dire qu'il est typiquement, dans ce qu'évoquait Hogarth, Richard Hogarth, sur l'enfant, c'est une charge, mais c'est aussi quelqu'un qu'on va remplir de gâterie et de solitude. C'est un moment sacré, une richesse, et le conflit. Enfin, bon, voilà. Et donc, au final, donc au-delà de ça, je vais finir là-dessus sur la. Je sais pas combien de temps il reste, Yael.
4 minutes.
4 minutes. Tranquille. Ok. Bon, bah, c'est parfait. Je finis sur un moment que dans la trajectoire de Sylvain, puisque pendant 2 ans. Il va avoir une aventure avec une infirmière libérale. Et en fait, l'aventure va très mal se finir, et autour, justement, de ces questions de genre. Puisque la principale... Alors, je ne sais pas s'il y avait la photo que tu avais prise sur le... Est-ce qu'on peut la mettre ou pas, au cas où, ce n'est pas grave.
La photo...
Oui. Bon, c'est pas... C'est juste pour illustrer au cas où. C'est la question du bisou sur la bouche. C'est-à-dire que Sylvain est quelqu'un de très charnel, qui entoure énormément ses enfants, mais même quand on se voit, il me prend par l'épaule, etc. Bon, c'est quelqu'un de très... très très physique, on simule des bagarres comme le font les enfants, etc. Bref... Et avec ses enfants, et principalement avec ses filles, il est très proche et ça va énormément gêner Valérie, sa compagne pendant 2 ans, qui elle est plutôt, elle va essayer de former Sylvain à une forme de psychologie pratique, celle des classes moyennes salariées entre guillemets, où il est sain de mettre une distance entre l'adulte et l'enfant. Distance dont les classes populaires n'ont pas les mêmes distances. Et alors par moment, donc c'est le, si jamais tu vois, c'est le.
Non, c'est
ta clé, hein.
Ça, c'est la mienne, l'autre est la mienne.
Oui, c'est pas très grave. C'est juste une illustration pour dire que c'était pas que ce cas-là, quoi. C'était une publicité que j'avais vue un jour. Bref, peu importe. Et en fait, en gros, Valérie, l'infirmière libérale, reproche à Sylvain d'être trop proche de ses filles, de se faire dominer par elles. Et surtout, alors lui, il va me dire, au moment où... Il est encore avec elle, il va me dire « j'en avais jamais pris conscience, ça a toujours été comme ça chez moi avec ma mère, on a toujours fait ça avec les enfants, j'essaie de changer, d'éviter de mettre en place le bisou sur les joues ». Et en fait, suite à un énième conflit dans le couple, il reçoit un SMS de Valérie « tu te casses de la maison, toi et ta famille de cassos ». Et donc du coup, à ce moment-là, il va retourner sur une forme de compte à soi pour se relégitimer les pratiques éducatif qu'il a avec ses enfants, en disant « avec les filles, les liens ne sont pas dangereux, ils sont équilibrés, mais elle me veut que pour moi ». Alors, en conclusion, 2 points que je voulais essayer de sortir un peu de l'étude de cas. D'une part, le cas de Sylvain, me semble-t-il, nous montre que les rapports sociaux de sexe en milieu populaire évoluent, qu'il existe des formes d'appropriation, des normes, d'émancipation, individuel vis-à-vis des normes de genre et de réalisation de soi, que le phénomène est très inégalement distribué, mais qu'il existe. Voilà, en gros, ce qu'a réussi à faire Sylvain, de mon point de vue, c'est de changer de vie sans changer de condition sociale. Aujourd'hui, ça apparaît vraiment comme quelqu'un d'apaisé, qui est, comme il le dit, bien dans mes pompes. Et puis après, plus pour élargir sur le cas d'hétérogamie sociale qui tourne court, il nous renseigne, enfin c'est un indice me semble-t-il, des formes de renouvellement des frontières entre groupes sociaux. Il y a un maintien des distances entre la petite bourgeoisie économique, ici avec le cas de Valérie, et les classes populaires, qui est essentielle à la pérennisation de chacun des groupes. Mais qui, me semble-t-il, qui véhicule un mépris de classe qui se développe et qui se banalise actuellement autour de l'expression « cassos ». Alors d'autres jeunes chercheurs analysent très bien ça. Je pense à Benoît Coquart, qui fait une étude spécifique sur les jeunes ruraux de Haute-Marne, où l'insulte de « cassos » vient bien séparer les classes populaires entre elles, entre celles stabilisées et celles instables, mais aussi au-delà. Et là, on voit que les classes populaires s'opposent à la petite bourgeoisie dans le cas-là. Et juste pour finir, comme une forme d'ouverture, enfin de questionnement, c'est quelque chose qui m'interroge actuellement. Dans un contexte où les inégalités, on le sait bien, croissent depuis une trentaine d'années, dans les zones rurales désindustrialisées, où on voit des industrialisations, il me semble que le seul modèle qui peut exister en interne, c'est la petite bourgeoisie à l'économique. Et donc, du coup, qui va aspirer les jeunes du côté de l'indépendance. Et parallèlement, la petite bourgeoisie culturelle, qui était bien représentée par les instituteurs, les enseignants, etc., a tendance à disparaître, du moins dans l'espace public. D'une part, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font les allers-retours, qui sont résidents urbains ou de la banlieue, et qui font les allers-retours tous les jours pour aller travailler. Et d'autre part, parce qu'ils ont moins d'espace pour investir l'espace public à travers les logiques associatives, etc. Merci.